depuis la protestation de Speer jusqu'au colloque de Marbourg. Marbourg ou Marbourg, tout simplement, comment on dit, Colette ?
Marbourg.
Marbourg. La protestation de Speer a pour origine une intervention du duc de Brunswick qui amène en Allemagne une lettre extrêmement menaçante de Charles Quint, lequel vient de s'entretenir avec le pape pour soumettre les hérétiques. L'arrivée de cette lettre provoque un gros émoi en Allemagne et un certain nombre d'interventions auprès du duc, en sorte que ce dernier convoque en 1526 à Speer une diète qui est en quelque sorte une dernière sommation que l'empereur et le pape vont adresser aux protestants. C'est le propre frère de Charles Quint, Ferdinand, qui va présider la diète et qui arrive pour ce faire dans la ville de Speer. Les princes protestants, donc, décident de se rendre à Speer en grande pompe et avec des idées bien arrêtées de maintenir le statu quo. Et ils ont une profonde... Ils se sont concertés auparavant et ils ont une profonde unité. La première chose qu'ils font en arrivant à Speer, c'est de faire célébrer le culte protestant un peu partout où ils le peuvent, dans des églises, de façon à bien montrer la couleur. Et comme si cela ne suffisait pas, ils brodent sur leur manteau ce slogan « La parole de l'Éternel demeure éternellement ». Donc c'est déjà montrer la couleur d'une manière haut et fort, un peu trop peut-être, une espèce de provocation qui est faite. En tout cas, elle paye cette provocation car Ferdinand en est intimidé. Dans le même temps, l'œuvre de la réforme se poursuit, notamment grâce au travail de nombreux colporteurs qui distribuent la littérature et qui vendent des bibles, etc., un peu partout où ils le peuvent. Luther, qui est averti de cette diète, annonce que si l'Allemagne se détourne de la parole de Dieu, elle connaîtra un jugement de Dieu sans précédent. Par conséquent, on verrouille du côté protestant vraiment tout ce qui est indispensable pour que on tienne ferme en face de cette attaque frontale du catholicisme. Le 3 août, Ferdinand, sous la pression des évêques, donne lecture aux protestants de l'arrêt de l'empereur qui interdit sur tout le territoire de l'Allemagne la célébration du culte protestant. Avant qu'on ait pu entrer dans le vif du sujet, eh bien, il semble que le Seigneur intervienne. En effet, dans le temps où cette diète a lieu, une querelle éclate entre le pape et l'empereur. Et le but de cette querelle, c'est que l'empereur ne supporte plus les visées politiques du pape. Il le somme de ne s'occuper que du spirituel et de lui laisser à lui, l'empereur, le soin du politique. Le pape refuse, la querelle s'envenime et on entrevoit le moment où la querelle va devoir se régler par les armes. Dans ce conflit, l'empereur Charles Quint a besoin de l'appui des papes protestants, des princes protestants contre le pape, et c'est pourquoi il décide de suspendre la diète, de laisser la liberté religieuse jusqu'à ce qu'un concile en rétablisse l'unité. Le 27 août, les envoyés de l'empereur quittent la ville de Speer pour une autre raison également. Là, il y a vraiment une intervention de Dieu, c'est que les musulmans ont envahi la Bohême. Et Ferdinand est obligé de prendre la tête des armées impériales pour faire face aux musulmans. L'empereur marche, lui, pour sa part sur Rome. Chez les princes protestants, on salue cela comme une intervention de Dieu. Avant d'attaquer Rome, Charles Quint somme une dernière fois le pape de renoncer à ses prétentions temporelles et de convoquer un concile. Ce sont les deux exigences de l'ultimatum. Le pape refuse. Le 5 mai, Charles Quint lance l'assaut contre Rome. Le 6, la ville tombe entre ses mains. Les troupes de l'empereur mettent la ville de Rome à sac, un sac de 10 jours. Il y a 10 millions d'écus d'or qui sont pillés et entre 5 à 8 000 morts qui sont massacrés par les troupes impériales. Devant le désastre qui s'abat sur sa ville, Clément V finit par capituler et la ville de Rome mettra plusieurs années avant de se remettre de ce sac terrible dans lequel les protestants voient véritablement le jugement de Dieu sur la grande prostituée, sur la ville apostate. Ils y voient l'accomplissement de la prophétie de l'Apocalypse où il est écrit que les cornes, c'est-à-dire le pouvoir politique, haïront la prostituée et ils la mettront à nu. En fait, évidemment, c'est un accomplissement bien partiel de la prophétie, ainsi que nous allons le voir. Mais en tout cas, ce sac de Rome donne aux protestants 3 ans de répit, de 1526 à 1529, et pendant ce temps, la réforme va se développer en Allemagne d'une manière absolument irréversible. Ce n'est pas simplement en Allemagne que la réforme se répand, mais également en Suisse, à Zurich, Zwingli, a constitué le Conseil des 200, qui sont les représentants de l'Église. Et puis, il y a un autre État allemand qui lui aussi va passer à la réforme dans ces années-là, ce sont les États du Landgrave Philippe de Hesse, lequel est un ami de Jacques Stur, qui lui aussi est un homme qui est acquis à la réforme et qui est un ami personnel d'un autre réformateur, Aubert d'Avignon. Et lorsque Philippe de Hesse décide d'embrasser la réforme, il fait appel à cet Aubert d'Avignon pour que ce dernier vienne prêcher la réforme dans ses États. Lambert compose 158 thèses qu'il affiche sur les portes des églises, comme l'avait fait Luther en 1517. Et à la suite de ces placards, une disputation est organisée, à la suite de laquelle le catholicisme est banni des États du Landgrave et Lambert est chargé d'établir l'église de Hesse. Il travaille pendant 3 jours à la constitution de l'Église et voici ce qu'il élabore. Premièrement, toutes les églises de Hesse seront des églises qui seront réformées. Lambert proclame l'autonomie du gouvernement de l'Église par rapport à l'État. Il chasse tout ce qui est idolâtrie, il va même très loin puisqu'il interdit même la musique d'orgue. Chaque église doit élire son pasteur et chacun peut postuler au poste de pasteur. Chaque État a également son synode. Il y a une démocratie ecclésiastique, mais pour tempérer un peu cet excès, Lambert crée 6 superintendants qui sont chargés de surveiller que les choses se passent bien. La démocratie extrême à laquelle Lambert souscrit, finalement, se révèle très vite invivable. Par conséquent, il y a une réaction qui va naître et qui fait qu'il y a donc un système un petit peu plus, on dirait, structuré qui va se mettre en place avec le temps. Seulement, il faut bien dire qu'on était ici en pleine réaction contre le catholicisme, qu'il fallait tout repartir, tout recréer à partir de zéro, et que la tâche des réformateurs n'était pas facile, surtout qu'il fallait improviser. Maintenant, il y a un autre problème qui va naître dans l'Église d'Allemagne, c'est que les représentants du peuple sont en fait les princes. Et bien que Lambert ait affirmé haut et clair l'indépendance de l'Église par rapport à l'État, dans les faits, l'Église va se trouver bien vite inféodée à l'État. En tout cas, l'Église d'Allemagne. Et cela, d'ailleurs, à la demande de Luther. Luther, qui s'est bien rendu compte des excès de l'extrême démocratie, qui voit la pagaille s'organiser dans ses églises, faites appel au prince en disant au prince, c'est à vous de veiller à ce que les choses se passent bien. C'est à vous de surveiller que les pasteurs font bien leur travail, que les pasteurs sont des gens sérieux et valables. Au besoin, vous les destituez, vous en nommez d'autres. Donc c'est en quelque sorte livrer l'Église pieds et poings liés au prince. Et sur ce point-là, il est certain que Luther n'était pas au clair. Luther pense que ce sera provisoire. C'est une mesure qu'il estime être provisoire jusqu'à ce que le peuple soit à même de prendre lui-même ses responsabilités, car Luther estime que le peuple est inculte et grossier, ce qui est vrai, et que par conséquent, il n'est pas capable d'assurer cette démocratie à laquelle il rêve. C'est cette notion du sacerdoce universel. Alors, puisque le peuple est représenté par les princes, que ce soit les princes qui agissent au nom du peuple. En fait, on aurait pu objecter à Luther que l'Église primitive était dans la même situation. Et que l'Église primitive n'a pas fait appel aux princes, aux grands, pour établir l'ordre en son sein, mais à l'autorité des apôtres. Et là, Luther n'a pas agi comme un apôtre dans ce domaine-là. Il a fait appel au pouvoir temporel, et ça, ça a été son erreur. En fait, il était influencé en cela encore par l'Église catholique du Moyen-Âge, l'Église constantinienne à laquelle il appartenait. C'est donc en 1126, cette même année de la protestation de Spire, de la diète de Spire, que Luther publie sa première messe allemande. Et en fait, quand il agit de cette manière, Luther sait très bien, au fond lui-même, que la véritable Église est une Église de professants. Mais il écrit que si il devait constituer une Église de professants, les gens sont tellement loin de l'Évangile qu'il n'aurait personne. Et c'est pourquoi il décide de donner à son Église une structure multitudiniste comme une situation provisoire. Mais comme vous le savez, le propre du provisoire, c'est qu'il dure longtemps, et ce provisoire dure encore dans les églises luthériennes jusqu'à nos jours. Mais pour Luther, dès qu'on le pourra, il faudra changer cette structure. Néanmoins, sur ce point, Luther se trouve en désaccord avec son collaborateur immédiat, Melanchthon, qui lui veut garder tout ce qui peut l'être. Nous l'avons vu, son slogan est celui-ci, « Toute innovation nuit au peuple ». Par conséquent, il souhaite conserver la messe latine, tout en y introduisant des cantiques allemands, la communion sous une seule espèce, la confession, les vêtements sacrés. Bref, il fait de nombreux compromis. Et nous allons voir que Melanchthon est un homme qui va mettre la réforme en danger à cause de sa tendance au compromis. En 1529, 3 ans plus tard, Luther publie ses 2 catéchismes, le petit et le grand catéchisme, au moment où d'autres villes impériales basculent à la réforme. C'est le cas de Nuremberg, d'Augsbourg, d'Ulm, de Strasbourg, de Göttingen, Lübeck, Brême et Hambourg. À Hambourg, la réforme a pour promoteur un certain Pomeranus, et dans le Brunswick, c'est un dominicain qui, le 1er janvier 1527, descend de la chaire en disant qu'il est convaincu de la réforme et désormais il prêche la réforme. Berlin est aussi une ville qui va basculer à la réforme sous l'influence de la fille du roi Jean de Danemark, Elisabeth, qui est la nièce de l'électeur de Saxe. Elisabeth se convertit et elle prêche la réforme. Et alors, elle se heurte à son chapelain, qui essaye de le ramener dans le droit chemin de l'Église catholique, et qui, pour contrer la doctrine d'Élisabeth, essaye de prouver que Paul était un hérétique, rien que ça, puisqu'il parle de Marie comme d'une femme, quand les temps sont accomplis, Dieu envoya son fils né d'une femme, né sous la loi, alors que Marie était une vierge. Et que Paul aurait dû écrire, il envoya son fils né d'une vierge, et puisqu'il parle d'une femme, c'est que Paul est donc hérétique. Voilà, la démonstration profonde est très forte. Ça ne lui réussit pas. Car au moment où il est en train de prêcher ce sermon-là, Soudain, au grand émoi de tous ses auditeurs, il tombe foudroyé par une attaque d'apoplexie dont il ne se remettra pas. Ça fait grand effet. N'empêche que le mari d'Élisabeth n'accepte pas les thèses de sa femme, il la fait enfermer. Élisabeth parvient à s'échapper. Elle se réfugie dans le Slesvig-Holstein. Oui. Et là, eh bien, elle va continuer à être très active pour la cause de la réforme. C'est alors que dans la réforme surgit un certain nombre de problèmes. Des faux docteurs apparaissent, c'est inévitable. Et les princes les arrêtent et décident de les faire mettre à mort. Problème pour Luther. Luther réfléchit un moment, puis il dit non. Libérer ces gens. Il n'est pas question que, quelles que soient les erreurs qu'ils professent, ils puissent être mis à mort. Et le principe général de la réforme sera donc, en général, de ne pas mettre à mort donc les hérétiques. Il y aura des exceptions. Il y aura des exceptions nombreuses, hélas. Mais en tout cas, la position de Luther était celle-là. Par contre, du côté catholique, on ne s'embarrasse pas d'autant de scrupules, bien évidemment. Et c'est ainsi qu'un pasteur se trouve traduit en 1527 devant l'archevêque pour avoir donné la communion sous les deux espèces. Et alors, l'archevêque le fait secrètement assassiner. C'est le signal d'une vague de persécution, notamment dans la ville de Cologne, où on assiste même à cette chose terrible, comme c'est écrit dans l'Évangile, le frère se dressera contre son frère. Poussé par cet exemple de ce pasteur assassiné sur les ordres de l'archevêque, un frère catholique attire son frère protestant dans un guet-apens et il l'assassine, il le tue, tout simplement parce qu'il est protestant. À Munich, un certain protestant du nom de Charpentier est brûlé vif et 29 de ses amis sont noyés. En 1528, on assiste à une nouvelle offensive en règle contre la réforme. Un certain Othon de Prague présente au prince protestant une lettre qui est un faux, qu'il a forgé de toutes pièces, prétendant qu'il y a une conspiration contre la réforme et que les princes protestants vont être attaqués. Par conséquent, il est indispensable que les princes protestants non seulement se préparent à résister, mais prennent les devants et attaquent les villes catholiques. Donc, si vous voulez, c'est fomenter une guerre de religion d'une manière délibérée. Les princes protestants sont convaincus effectivement de cette menace qui pèse contre eux et ils mobilisent leurs forces. On est à deux doigts de cette guerre civile. Et c'est alors que Luther et Mélenchon, comme ils l'avaient fait pour le problème de la mise à mort des hérétiques, déclarent qu'il ne faut pas s'engager dans une guerre de religion. Et que si on doit être attaqué, on peut se défendre, mais ne pas prendre l'offensive soi-même. Se confier en Dieu, et que Dieu lui-même interviendra. Et quelque temps plus tard, la supercherie est découverte, et Othon va être jugé et décapité. C'était en quelque sorte une épreuve que le Seigneur avait placée devant ainsi le protestantisme, pour voir jusqu'où il irait, et là, les réformateurs avaient agi d'une manière spirituelle. En 1529, le pape et l'empereur se réconcilient. Et à nouveau, le problème de la réforme se repose. Et c'est alors que, à nouveau, la diète de Spire se rassemble. C'est le 29 juin 1528 qu'a eu lieu la réconciliation entre le pape et l'empereur. La paix est conclue à Barcelone. Et la base de cette réconciliation, c'est que l'empereur s'engage à écraser l'hérésie. Donc, le 21 février 1529, une nouvelle diète est convoquée à Spire. trois ans après la première. Plusieurs princes protestants font le voyage jusqu'à Rome pour essayer d'expliquer la position protestante. Le but de Charles Quint en convoquant la deuxième diète de Spire n'est ni plus ni moins que de supprimer la liberté religieuse qui est en vigueur depuis trois ans, depuis la première diète. C'est à nouveau Ferdinand qui va présider la diète et il annonce tout simplement que l'édit de Worms de 1521 qui donnait aux protestants allemands la liberté religieuse jusqu'à la convocation d'un concile, cet édit de Worms est tout simplement nul et non avenu. Par conséquent, c'est la fin du statu quo. Et alors, des fiévreuses, séances de travail ont lieu. Et finalement, les catholiques acceptent de lâcher du lest sur la base suivante, c'est qu'il y a les États qui sont protestants resteront protestants jusqu'à la convocation d'un concile. Mais il sera formellement interdit de faire du prosélytisme et de l'évangélisation. Voyez-vous, à quatre siècles de distance, on commence à trouver de curieuses coïncidences avec ce qui se passe aujourd'hui. Le 6 avril, cet édit est publié et les protestants considèrent que, en fait, c'est un coup d'arrêt, un coup de mort qui est donné à la réforme. Les princes protestants se concertent et le soir même, ils font une démarche auprès du prince Ferdinand, déclarant qu'ils refusent cet accord. En fait, les choses ne sont pas aussi nettes. 21 villes acceptent la proposition, 14 seulement s'y opposent. Ferdinand refuse de discuter, c'est à prendre ou à laisser, alors c'est à laisser. La rupture est consommée. Et c'est alors que les princes protestants qui n'ont pas accepté le compromis se rassemblent et le 15 avril 1529 présentent à Ferdinand et par son intermédiaire à l'empereur ce qu'ils appellent la protestation de Spire. Ce qu'on appelle la protestation de Spire. Et les signataires de cette protestation de Spire vont être, à cause de cela, appelés les protestants. Et l'expression « protestant » vient précisément de cette protestation du 15 avril 1529, appelée donc « protestation de Spire ». Je vous donne lecture du début de cette protestation. « Chers seigneurs, cousins, oncles et amis, nous étant rendus à cette diète sur la convocation de Sa Majesté et pour le bien commun de l'Empire et de la chrétienté, nous avons entendu et compris que les décisions de la dernière diète concernant notre sainte foi chrétienne devaient être supprimées et qu'on se proposait de leur substituer des résolutions restrictives et gênantes. C'est pourquoi, très chers seigneurs, oncles, cousins et amis, nous vous supplions cordialement de peser avec soin nos griefs et nos motifs. Que si vous ne vous rendez pas à notre requête, nous protestons par les présentes devant Dieu, notre unique Créateur, Conservateur, Rédempteur et Sauveur, et qui un jour sera notre juge, ainsi que devant tous les hommes et toutes les créatures, que nous ne consentons ni n'adhérons en aucune manière pour nous et pour les nôtres, au décret proposé par toutes les choses qui sont contraires à Dieu, à sa sainte parole, à notre bonne conscience, au salut de nos âmes et au dernier décret de Spire. Voilà. Cette courageuse protestation de Spire qui pouvait avoir des conséquences extrêmement graves. Les protestataires, les protestants, comme on va les appeler, estiment que renoncer au prosélytisme, c'est renoncer au principe même de la réforme. Et alors on assiste ici à une union de tous les chrétiens évangéliques qui vont s'unir pour signer cette protestation. Je ne sais pas si on en voit, non. Et alors, Ferdinand refuse. Il est indigné qu'on se permette d'agir et de parler ainsi. Et le 22 avril, les négociations entre les deux parties sont rompues. Le 26, les protestants quittent Spire. Mais hélas, on n'arrive pas à s'allier. Et c'est alors que naît, au sein du protestantisme qui a besoin de son unité, une controverse grave. Et cette controverse, elle porte sur la Sainte-Seine. Il y a deux positions tout à fait divergentes sur la Sainte-Seine. Celle de Luther d'un côté et celle de Zwingli de Zurich de l'autre. Luther, nous l'avons vu, continue à croire à la présence réelle dans l'hostie, que la nature du pain reste certes inchangée, mais que la nature du Christ vient en quelque sorte venir avec la substance du pain. Il y a donc une consubstantiation et non pas une transsubstantiation, comme disent les catholiques. Tandis que Zwingli croit que la présence du Christ dans l'hostie est uniquement spirituelle. Et alors, le ton commence à monter entre Zwingli et Luther sur ce sujet-là, d'autant qu'on en est presque à l'invective. Et Philippe de Hesse, qui est quand même un homme qui a un sens politique, forcément, que les autres n'ont pas, comprend que ce n'est pas le moment où on peut se payer le luxe d'une division semblable. Alors que maintenant, on a rompu définitivement avec l'Église catholique, on a besoin de s'unir. Et Philippe de Hesse envoie à Zwingli et à Luther une lettre dans laquelle il les supplie de se mettre d'accord. Et pour ce faire, il leur propose une rencontre, un colloque, dans la ville de Marbourg, pour que les théologiens des différents partis se rassemblent. Zwingli accepte la proposition du prince, Luther la refuse. Finalement, après de multiples pressions, Luther finit par accepter la rencontre. Mais nous sommes presque en guerre et le Grand Conseil de Zurich, le Conseil des 200, craignant pour la vie de Zwingli, refuse de laisser Zwingli partir à Marbourg. Il faut qu'il traverse en effet des territoires tenus par les catholiques et on estime que le voyage est trop périlleux pour lui. Le Grand Conseil ne veut pas perdre son apôtre et il refuse de le laisser partir. Zwingli hésite, puis il décide de passer outre à l'opposition du Conseil et il part de nuit, donc clandestinement, de Zurich. Zwingli arrive quelques jours après à Marbourg, sain et sauf, malgré les embûches de la route, et les premières séances de travail commencent. D'abord en privé, dans la chambre de Luther, puis dans la chambre de Zwingli. Et là, Zwingli déclare reconnaître, outre la parole de Dieu, les décrets des quatre premiers conciles œcuméniques, car ils sont basés sur la parole de Dieu. Souvenez-vous de ce que c'était les quatre premiers conciles œcuméniques. Bon, le premier, c'est celui de Jérusalem, le concile de Nicée, le concile d'Éphèse et le concile de Chalcédoine qui ont défini ce qu'était la divinité du Christ. Dans la mesure où ces conciles sont basés sur la parole de Dieu, Zwingli reconnaît leur autorité. Le 2 octobre, après plusieurs jours de discussion, on arrive à un constat d'échec. Les luthériens sont absolument intraitables sur la question de la présence réelle. Et alors, le prince Philippe s'impatiente. Il faut qu'il y ait une séance publique, et bien qu'on soit encore très loin d'un accord, la séance publique a lieu. Luther arrive avec ses gens, Melanchthon, etc. Il y a là un grand tableau noir avec une craie. Luther se lève et il écrit en gros sur le tableau noir « Hoc est corpus meus » en latin « Ceci est mon corps ». Et la discussion commence. Luther dit « Voilà, je reste profondément biblique. La Bible dit « Ceci est mon corps ». Alors Zwingli dit « Oui, mais il y a des choses qui sont symboliques dans la parole de Dieu. » Or là, nous avons manifestement affaire à une expression du Seigneur qui est symbolique. Car quand Jésus a dit ces paroles, il était encore dans son corps. Y a-t-il donc eu un dédoublement de son corps pour que soudain, eh bien, il donne son corps à manger? Bref, on discute longuement, avec véhémence, mais avec beaucoup de courtoisie. Il n'y a pas un mot de déplacé, pas une injure, pas une invective, n'est-ce pas? Mais malheureusement, on constate le désaccord complet, total. Luther est intraitable, il ne veut rien en démordre. Finalement, Zwingli et les Suisses qui l'accompagnent déclarent que, eh bien, puisque c'est ainsi, ils constatent qu'ils sont unis sur l'essentiel, mais que sur ce point-là, il y a un désaccord. Et Zwingli dit à Luther, il ne faut pas que ce désaccord nous empêche d'être unis. Il tend la main à Luther, quand dans un geste fraternel, Luther refuse de prendre la main. Et pour toute réponse, il déclare à Zwingli, vous n'avez pas le même esprit que nous. Alors, Philippe de Hesse est consterné. Là, le colloque qu'il a convoqué va se terminer en queue de poisson. Il supplie Luther au moins d'accepter la main que lui tend, la main fraternelle que lui tendent les Suisses. Finalement, Luther, bon, accepte de faire des concessions sur ce point-là, il tend la main aux Suisses. Alors, Philippe de Hesse veut pousser son avantage, il dit bien, rédigeons un texte. Rédigeons un texte dans lequel vous allez dire que vous êtes d'accord sur l'essentiel, mais que sur la question de la Sainte-Seine, vous n'êtes pas d'accord. Bon, entendu. Luther est chargé de rédiger ce texte, puisqu'il est le plus ancien. Il va donc rédiger 15 articles de foi. Le premier sur la mort et la résurrection. Le deuxième sur le péché originel. Sur la justification par la foi. Sur le baptême. Sur la parole de Dieu. Sur les bonnes œuvres. Le dernier point, c'est celui de la Sainte-Seine. Alors, il est rédigé que tout le monde dans la Réforme croit que la Sainte-Seine doit être célébrée sous les deux espèces, mais que, sur la question de la présence réelle, il y a cette divergence. Le 4 octobre, le texte est accepté, et nous avons ici ce qui va faire l'originalité de la Réforme, l'unité dans la diversité. On a réussi à rétablir l'unité, mais pas l'uniformité. Il y a une diversité qui est à la base même, à l'origine même de la Réforme. Un autre résultat du colloque, c'est que l'on proclame officiellement la rupture définitive avec Rome. Voici ce qu'est cette déclaration de Marbourg. Au 14e article, accepté par tous, on ajouta ces mots. Bien que dans le temps actuel, nous n'ayons pas pu nous accorder sur l'article de la présence réelle du corps et du sang de Jésus-Christ dans le pain et dans le vin, les deux parties doivent s'entraîner chrétiennement, autant que la conscience le peut permettre, et prier instamment le Dieu Tout-Puissant qu'il veuille affermir par son esprit dans le vrai sens du sacrement. Amen. Signé Martin Luther, Philippe Melanchthon, Justus Jonas, André Ossiender, J. Brenz, Étienne Agricola, Jean Ecolampad, Ulrich Zwingli, Martin Bucer, Gaspard Hédion, le 4 octobre 1529. Au moment où l'on se sépare, on apprend l'invasion de l'Empire par Soliman. Et Luther, qui voit dans les musulmans l'Antichrist, alors va prêcher, avec la fougue qui le caractérise, un sermon de bataille dans lequel il appelle la mobilisation contre les Turcs. Maintenant, il y a une autre conséquence du colloque de Marbourg, c'est que les doctrines des Suisses vont se répandre en Allemagne, notamment sur la question de la présence réelle. Quand l'empereur apprend le colloque de Marbourg, et par conséquent que les réformés se sont mis d'accord, il est furieux. Et en septembre 1529, au moment où il vient d'écraser le pape, il débarque à Gênes. Et c'est à Gênes que trois députés allemands viennent lui remettre la protestation de Spire officiellement. L'empereur est estomaqué par autant d'audace. Il prend la protestation. Il ne fait aucun commentaire. Il déclare aux députés simplement qu'il réserve sa réponse. Et quelques jours après, il fait savoir à ses députés qu'il refuse la protestation. Puis, quelques jours plus tard, il fait arrêter les députés. Le 5 novembre, il se rend à Bologne en conférence avec le pape. Le but de la conférence, c'est justement la question de la réforme. Charles Quint n'a pas abandonné son idée d'un concile pour régler cette question de la réforme, mais le pape, échaudé par les conciles du siècle précédent, ne veut pas entendre parler de concile. Et par conséquent, toutes les démarches de Charles Quint sont vaines pour lui faire admettre l'idée d'un concile. Par contre, on décide une opération militaire contre l'Allemagne pour écraser la réforme. Entre-temps, l'unité péniblement mise au point à Marbourg risque d'être à nouveau remise en cause parce que Luther a interprété le 14e article de Marbourg dans un sens luthérien. Et c'est pourquoi, le 29 novembre, on estime nécessaire du côté protestant de rassembler un nouveau congrès qui se rassemble à Smalkade pour revoir à nouveau cette question de la Sainte-Seine. Nouvelle intransigeance des luthériens, et c'est à Smalkade que Luther annonce la fin du monde qui est imminente pour lui. Et c'est alors que le 21 janvier de cette même année, Charles Quint convoque à Augsbourg les états généraux de toute l'Allemagne. Il vient d'être couronné par le pape, et là, il prétend qu'il va se montrer conciliant envers les protestants. Et c'est cette année 1530 que va avoir lieu un événement majeur de l'histoire de la Réforme. À l'occasion de cette rencontre, les protestants vont rédiger la fameuse confession de foi d'Augsbourg. À la convocation de l'empereur, qui va se rendre en personne dans la ville d'Augsbourg, n'est-ce pas ? Luther, Mélenchon, Jonas et le prince Jean de Saxe, le vieux prince Jean de Saxe, se mettent en route pour la ville impériale. On n'est pas très fiers pendant cette chevauchée, car on se rend bien compte qu'on va jouer là une forte partie. Luther seul reste inébranlable, et pendant que le cheval galope sur les routes d'Allemagne, il chante son fameux choral « C'est un rempart que notre Dieu ». Quand ils arrivent à non loin de d'Augsbourg, un château dans lequel ils passent la nuit, à quelques kilomètres d'Augsbourg, s'appelle le château de Cobourg, le prince Jean de Saxe, qui est un politique, après avoir au moins réfléchi, s'entretient avec Luther et lui dit « Écoutez, je pense que vous devriez rester ici au château. Que ce n'est pas à vous d'aller en première ligne là-bas, dans cette bataille à Augsbourg. Restez ici. vous serez tenu au courant, vous ne serez pas loin d'Augsbourg, vous serez tenu au courant de tout ce qui se passera, vous pourrez donner votre avis pour intervenir. C'est trop dangereux pour vous, vous soyez là-bas. Et puis en même temps, c'est peut-être pas opportun. Bon, Luther se rend à cet argument. Il s'installe donc au château de Cobourg. Et c'est Melanchthon qui va mener le combat à Augsbourg. Le prince craignait aussi que la présence du réformateur n'indispose les adversaires de la réforme, mais qu'il était bon que Luther soit à proximité pour pouvoir donner son avis. Le prince Jean de Saxe arrive à Augsbourg et immédiatement commencent des tentatives de séduction de la part des évêques qui sont déjà arrivés. On flatte le prince, on l'invite à des banquets, etc. Jean de Saxe, qui est un vieux routier à qui on n'en fait pas, comme aspire, fait tout de suite prêcher l'évangile dans toutes les églises où il peut. Charles Quint, qui est averti de ce qui se passe, considère cela comme une provocation et donne l'ordre que les prêches protestants cessent immédiatement. Bon, que faire? On consulte Luther au château de Cobourg. Luther, nous l'avons vu, est un homme qui a le respect scrupuleux de l'autorité. Toute autorité est établie par Dieu et quand il estime que les choses essentielles ne sont pas en jeu, Luther est toujours pour une obéissance inconditionnelle. Il conseille que l'on se soumette et que l'on cesse de prêcher l'évangile. Jean de Saxe ne l'entend pas de cette oreille-là. Il dit : comment refuser de prêcher l'évangile ? Non, c'est inacceptable. Et il résiste, il passe outre au conseil de Luther. Le 31 mai, il envoie une lettre dans ce sens à l'empereur disant qu'il ne cessera pas de prêcher l'évangile pour autant. Pendant ce temps, on a décidé, sur les conseils de Luther, de soumettre à l'empereur une confession de foi qui résumerait l'essentiel justement des doctrines des réformateurs. Melanchthon, qui est un théologien de haut niveau, est donc invité à écrire, à rédiger cette confession de foi qui sera ensuite discutée par les autres. Melanchthon se met à travailler jour et nuit à Augsbourg en attendant l'arrivée de l'empereur à sa confession. Luther approuve cette démarche et c'est alors qu'il est là, dans cette attente, qu'il apprend la mort de son père, ce qui lui provoque, il était très attaché à son père, ça le déstabilise quelque peu. Et il dira qu'à la suite de cette nouvelle, il sera à nouveau attaqué par le diable la nuit comme il l'avait été quand il était moine. Comme il n'a rien à faire, en attendant les nouvelles, il continue à travailler à sa traduction de l'Ancien Testament. Et le 31 mai, Melanchthon achève son travail et il donne lecture de sa confession aux princes protestants pour qu'ils en discutent les différents articles. La confession de foi de Melanchthon se termine par un appel à la convocation d'un concile pour discuter de ses thèses. Il commence par proclamer que l'empereur est incompétent pour trancher en matière de foi, donc c'est tout de suite donné le ton. Hein. Et voilà, on attend maintenant l'arrivée de l'empereur. L'empereur arrive à Augsbourg le 15 juin, quelques temps plus tard. Il est alors âgé de 30 ans. Et immédiatement, l'empereur convoque Melanchthon et les principaux représentants protestants dans sa chambre pour prendre un peu la température, si j'ose dire. Il demande également que l'on supprime la prédication des prêches dans les églises d'Augsbourg. Seulement, Charles Quint a un gros handicap. C'est qu'il ne connaît pas l'allemand. Enfin, pas suffisamment en tout cas, pour pouvoir suivre une conversation quelque peu complexe. Et de ce fait, il aura le plus grand mal à suivre les débats de la diète. Et plus d'une fois, on le verra dormir sur son siège consciencieusement pendant qu'on discute, parce qu'il est incapable de suivre une conversation en allemand. Il ne prendra d'ailleurs jamais la parole devant la diète parce qu'il en est incapable. Par contre, on organise dès l'arrivée de l'empereur une grande procession du Saint-Sacrement dans les rues de la ville d'Augsbourg. Et sur le passage du Saint-Sacrement, tout le monde se met à genoux, pieusement, sauf les princes protestants. Charles Quint ordonne aux princes protestants de se prosterner devant le Saint-Sacrement. Refus des princes protestants. finalement, on arrive à un compromis sur la question des prêches. Ça veut dire que on lira la Bible, mais sans la commenter. C'est ce que propose l'empereur. Et les protestants, qui ont une confiance absolue dans la puissance de la parole de Dieu, disent « Ok, ça nous va, ça nous va. » Qu'on lise la Bible sans commentaire, elle s'explique d'elle-même. Et par conséquent, ils ne prêchent plus l'Évangile, mais ils lisent la Bible publiquement dans les églises, des passages bien choisis, et les foules de gens se convertissent quand même. N'est-ce pas ? Et alors, c'est là que maintenant les choses vont se gâter. Melanchthon a rédigé sa confession de foi d'une manière telle qu'elle laisse la porte ouverte à un retour vers l'Église catholique. Il l'a écrit de la manière la plus modérée possible pour ne pas fermer la porte à des accords éventuels avec les catholiques. Et alors, il propose que l'on discute pour pouvoir justement revenir dans l'Église catholique. Refus des princes protestants. Le 24 juin a lieu la première séance publique de la diète. Les protestants demandent qu'on remette la présentation de leur déclaration de foi au lendemain, au 25. Refus des catholiques. Et par conséquent, le 23 juin, on est obligé, en toute hâte, de foi et de la signer. Melanchthon, encore une fois, devant ses amis, plaide pour le compromis à tout prix, refus des entre-princes protestants et théologiens. Le 24 juin, l'empereur refuse d'écouter la lecture de la confession de foi. Finalement, ce n'est que le 25 juin que Melanchthon en fera la lecture publique. L'empereur demande qu'on la lise en latin. Il y a deux raisons à cela. La première, c'est qu'il comprend mieux le latin que l'allemand. La deuxième, c'est que le peuple ne comprend pas le latin. Et comme la séance est publique, il n'a pas envie que le peuple comprenne ce qu'il va se dire. Pour la même raison, les protestants, eux, exigent qu'elle soit lue en allemand. Et ils disent « l'allemand est notre langue, il n'y a aucune raison que nous lisions cette confession de foi en latin. » Finalement, donc, on lit en allemand. Dans le prologue, Melanchthon commence par demander la convocation d'un concile. Puis, il expose la doctrine du salut par la foi seule. Puis, troisième point, l'unité plurielle de l'Église. La question de la présence réelle. Quatrième point, le fait que sans le Saint-Esprit, on ne peut rien faire qui soit agréable à Dieu. Aucune bonne œuvre ne peut être agréable à Dieu. Puis il est question de la communion sous les deux espèces, du célibat des prêtres et des vœux monastiques, de l'autorité des évêques qui est battue en brèche, et enfin de l'indépendance des deux pouvoirs, politique et spirituel. Néanmoins, la confession d'Augsbourg, comme on va l'appeler dès lors, a fait d'énormes concessions au catholicisme. C'est ainsi, par exemple, que la confession ne parle pas du pape, pas un mot du pape. C'est d'autant plus étonnant que l'empereur vient de s'unir avec le pape, et que par conséquent, c'est vraiment ménager vraiment la chèvre et le chou. Bon, pendant la lecture de la confession, Charles Quint a consciencieusement dormi. Et ce qui est intéressant, c'est extraordinaire, n'est-ce pas, c'est qu'il existait deux exemplaires de cette confession d'Augsbourg, rédigée par Melanchthon, donc un exemplaire en allemand, un exemplaire en latin. Or, l'exemplaire allemand, vous savez où il est aujourd'hui ? Je vous le donne en mille, il est au Vatican. Et c'est les catholiques qui l'ont récupéré au moment du Concile de Trente. C'est alors que l'empereur demande aux protestants de ne pas publier la confession. pas l'imprimer. Et après une discussion, l'évêque d'Augsbourg est obligé de reconnaître qu'il y a beaucoup de vrai dans la confession. Maintenant, il est certain que l'empereur a d'autres chats fouettés. Il a des gens qui cherchent à le renverser, et notamment parmi les princes protestants. Philippe de Hesse est de cela. Il médite une révolution qui changerait le cours de l'histoire de l'Europe, qui supprimerait l'Empire et qui ferait que, à la tête de l'Empire, il y aurait en fait un prince protestant, c'est-à-dire lui, Philippe de Hesse. Et Philippe de Hesse profite de sa présence à Augsbourg pour essayer de constituer une ligue dans le but de renverser l'empereur. Dans cette alliance, il y aurait le roi de France François Ier, bien que catholique, mais ennemi de l'empereur, lui aussi. Et la situation est telle que dans cette fameuse rencontre d'Augsbourg, eh bien, il y a des choses troubles qui se passent. La guerre gronde entre les protestants et les catholiques. Plusieurs princes catholiques, au moment de la lecture de la confession d'Augsbourg, se convertissent au protestantisme. Et bientôt, la confession d'Augsbourg va être imprimée. Les princes protestants passent outre à l'interdiction de l'empereur. Et la confession d'Augsbourg va se répandre dans toute l'Europe. Va devenir un des grands textes fondateurs de la Réforme. Et la plupart des églises protestantes nationales qui vont se créer un peu partout en Europe au XVIe siècle vont s'inspirer de la confession d'Augsbourg. La confession d'Augsbourg va avoir un très très gros succès. Parmi les catholiques, les princes catholiques qui se convertissent au moment de la diète d'Augsbourg, il y a Marie, la propre sœur de Charles Quint, n'est-ce pas, qui est veuve de Louis de Hongrie et que Charles Quint vient de nommer gouvernante des Pays-Bas. Et puis il y a un autre courant qui se manifeste à Augsbourg, c'est le courant de Mélenchon, le courant pro-romain, pro-catholique. Dans le même temps où il publie sa confession, Mélenchon écrit au pape secrètement, disant qu'il est prêt à revenir à Rome si le pape lui permet de prêcher l'évangile de la justification par la foi. Refus du pape. Et c'est alors que Luther, qui est toujours dans son château de Cobourg, a des bruits de ces tentatives de compromis de Mélenchon, et Luther commence à s'inquiéter. Quant au pape, il considère la confession d'Augsbourg comme une véritable déclaration de guerre. Maintenant, les catholiques ne sont pas complètement fous. Ils se rendent compte que dans la confession d'Augsbourg, il y a le dit et il y a le non-dit. La confession d'Augsbourg ne dit rien sur le pape, elle ne dit rien sur la question des saints, elle ne dit rien sur un certain nombre d'autres questions qui sont fondamentales pour l'Église catholique, sur les indulgences ou des choses comme ça. Et dans les séances qui suivent, à partir du 25 juin, du 26 juin très exactement, n'est-ce pas ? Les théologiens catholiques demandent des explications. Quid du pape ? Quid du culte des saints ? Quid de la virginité perpétuelle de Marie ? Alors, les protestants répondent que dans la confession, ils ont voulu simplement mentionner uniquement ce qui est indispensable au salut. Seulement, ça ne satisfait pas les catholiques. Et alors, on décide de créer une commission mixte de théologiens catholiques et protestants pour discuter de chacun des articles de la confession d'Augsbourg. Et le 13 juillet 1530, les théologiens protestants se rassemblent pour remettre à l'empereur et à la diète, une réfutation de la confession d'Augsbourg qui va servir de contre-proposition sur laquelle on va discuter ensuite. En fait, cette confession de foi catholique comprend 280 pages qui sont 280 pages d'injures. Aucun argument. Charles Quint trouve que quand même ça vole un peu bas. Et il demande à Eck, écoutez les amis, refaites votre copie, hein. Ça ne marche pas. Bon. Il faut 3 semaines aux catholiques pour rédiger leur réfutation de la confession d'Augsbourg. Quant à Luther, il approuve tous les termes de la confession d'Augsbourg. Mais Mélenchon lui-même trouve qu'il a été trop dur. Quant à Jean, il est parfaitement satisfait de cette situation-là. Et c'est alors que Mélenchon propose aux catholiques une nouvelle concession. Il est prêt à admettre la doctrine catholique du sacrement donc ex opere operato, c'est-à-dire le sacrement qui agit par lui-même. Et sur un certain autre d'autres points du dogme romain, il est prêt aussi à accepter des concessions. 3 semaines donc après, les catholiques font connaître leur réfutation. Bon, gros éclat de rire parmi les réformés, parce qu'ils se rendent bien compte qu'il y a une ignorance totale de l'Évangile. Ne sont réaffirmés que les dogmes romains basés sur la tradition, mais aucun argument biblique, aucun argument tiré de l'Évangile. C'est un jeu d'enfant pour les théologiens protestants de réfuter la réfutation de leur confession. Hein ? Donc ils refusent officiellement cette réfutation. L'empereur est furieux, il dit « puisque c'est comme ça, moi je vais employer l'épée pour vous mettre à la raison ». Luther, dans son château, apprend cela, il est fou de rage, de colère, et il exhorte les protestants à tenir ferme. Il fait preuve d'un courage inébranlable, d'une foi inébranlable, même dans la perspective d'une guerre qui est imminente. Les princes protestants sont alors convoqués par l'empereur, qui les somme d'accepter la réfutation de la confession d'Augsbourg. C'est alors que Philippe de Hesse prend une décision, comprenant que là on est à la rupture, et que, en quelque sorte, ils sont déjà des otages, il fuit secrètement de nuit d'Augsbourg pour organiser la résistance armée. Devant cette fuite, les catholiques comprennent que les protestants sont prêts à la résistance armée, et ils font ce qui se passe souvent d'ailleurs dans ces cas-là. Quand on fait montre de fermeté vis-à-vis des catholiques, ils jettent l'éponge. Le ton change immédiatement, dès la fuite de Philippe de Hesse. Eh bien, le ton maintenant devient conciliant. Il n'est plus question de prendre les armes. Si vous voulez, la diète d'Augsbourg comprend 3 périodes. Une première période de tâtonnement, une deuxième période de menace, et on arrive maintenant à la 3e période, les accommodements. Le 16 août, on crée une nouvelle commission mixte qui comprend 2 princes, un catholique et un protestant, et 3 théologiens, protestants et catholiques. Ça fait 6 en tout. On décide de prendre la confession protestante comme base de discussion. Et finalement, les théologiens catholiques sont d'accord sur la plupart des articles, sauf 6. Il n'y a que 6 articles qui font problème. On est d'accord sur le baptême des enfants, mais on n'est pas d'accord avec le fait que les protestants nient le péché originel. C'est le premier point de désaccord. Ensuite, le 2e point de désaccord, c'est la question de la pénitence, du sacrement de pénitence, que les protestants ne reconnaissent pas. Selon les catholiques, pour qu'il puisse y avoir pardon, il faut 3 choses. La confession, la satisfaction et la pénitence. Ils ne trouvent pas ça dans la confession de foi, et les protestants, sommés de s'expliquer, disent qu'ils n'y croient pas. Ils rejettent justement la pénitence, surtout la pénitence, car la pénitence, c'est les indulgences, c'est le purgatoire. Et là, les catholiques comprennent que les protestants rejettent ces 2 points. 3e point de désaccord, le culte des saints. 4e point de désaccord, la justification par la foi. Et finalement, après de multiples discussions, les catholiques font des concessions. Mais ils font des concessions comme ils les font souvent, c'est-à-dire c'est subtil. C'est un double langage qu'ils emploient, dans lesquels les protestants finissent par trouver leur compte. et on est tout près d'un accord. Melanchthon pense qu'il va pouvoir réintégrer l'Église catholique sur ces bases-là. Et alors, il y a une deuxième période dans cette discussion, c'est que maintenant, on va parler d'un autre article, le 18e article, où il est question des abus de l'Église catholique. Et là aussi, Rome semble faire des concessions sur la moralité des prêtres, sur les trafics d'argent, sur la question de l'Église. Et on entend les protestants dire que dans ces conditions-là, ils sont prêts à revenir sous la juridiction des évêques, à condition qu'on leur permette de prêcher le salut par grâce. Voyez-vous, jamais la réforme n'a été dans un aussi grand danger. Ça peut se terminer là. Les protestants reconnaissent que les évêques sont placés par Dieu au-dessus des prêtres, à condition qu'ils puissent prêcher l'Évangile. Alors les catholiques poussent leur avantage. Ils arrivent, mènent maintenant la question du pape. Et alors, ils ont ce raisonnement subtil, écoutez bien, comme c'est vraiment poussé fort. Ils savent que les protestants considèrent le pape comme un antichrist. Alors voilà leur argumentation. Même si le pape est un antichrist, vous devez reconnaître son autorité, de la même manière que les juifs ont reconnu l'autorité de Caïphe. Ils ont reconnu l'autorité de Pharaon. À ceci étant, vous avez la possibilité de prêcher le salut par grâce. Voyez-vous, ça ressemble étrangement à ce qui se passe aujourd'hui dans le dialogue œcuménique. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il y a toujours eu au sein du protestantisme un courant qui a été pour un accord avec le catholicisme, un retour au catholicisme, moyennant certaines concessions du catholicisme. Et le catholicisme a toujours été prêt à faire des concessions pour obtenir la récupération, le retour des protestants, sachant qu'après, ils pourraient retirer la corde. Et c'est ce que Luther avait bien compris. Quand Luther a appris ce qui se tramait, il a vu rouge. Et il a rappelé son monde à l'ordre, et heureusement qu'il était là. Et puis, il y a une autre catégorie de gens qui a réagi contre les concessions, c'est les laïcs. Les laïcs n'étaient pas d'accord. T'es pas d'accord de revenir sous la juridiction de Rome. Quant à Luther, il a rappelé avec force qu'il exigeait l'abolition de l'institution papale avant tout accord avec l'Église catholique. C'était la condition première. On ne pouvait pas discuter aussi longtemps que le pape n'était pas envoyé à la retraite. C'est bon comme argumentation. Ça veut dire que c'est le suicide de l'Église catholique, quoi. Hein. Alors il a rappelé à l'ordre des négociateurs. Melanchthon est pris d'un véritable vertige. Il refuse d'écouter Luther. Zwingli commence aussi à réagir. Il s'en prend à Melanchthon. Et heureusement, tout est sauvé par l'intransigeance des catholiques qui reviennent sur les concessions qu'ils ont faites. Bien que les protestants soient allés de concession en concession, et puis Philippe de Hesse aussi réagit négativement. Il n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord avec un retour à Rome. Melanchthon plaide et dit « Si on se divise, ce sera à terme la destruction de toute religion. » C'est la possibilité, c'est la crainte de voir l'État prendre tout en main. Et il fait une nouvelle concession aux catholiques sur le célibat des prêtres. Refus net des autres protestants, notamment sur la question du purgatoire et des mérites des œuvres. Là, ça, c'est là que tout soudain va capoter, ainsi que sur l'utilité des messes privées. Et c'est alors qu'on arrive à la question centrale, qui sauve, l'Église ou Jésus-Christ? C'est la question actuelle encore. Ça n'a pas changé. Le 31 août, c'est la fin du colloque. On a un constat d'échec qui a tenu un cheveu. On a été à deux doigts d'un accord. Alors, voyez-vous, comme je disais tout à l'heure, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce courant, qui était le courant de Melanchthon, on le retrouve aujourd'hui avec les groupes des dons, on le retrouve avec les œcuménistes béats, c'est la même chose, ça n'a pas changé. Et là, je crois qu'il faut rendre à Luther le mérite qui a été le sien, de tenir ferme et de ne pas se laisser endormir par les sirènes romaines qui ont toujours employé les mêmes moyens et qui continuent à le faire comme elles l'ont fait hier. Là aussi, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est pourquoi on se rend compte combien il est important d'étudier l'histoire pour pouvoir tirer aujourd'hui les leçons d'histoire. Parce que le but de Rome n'a pas changé, c'est de tout ramener par les mêmes moyens. Voilà, c'est ce qu'on pouvait dire ce soir. Est-ce que vous avez des questions complémentaires à poser ?